Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler énergie et plus particulièrement énergie verte. Alors, quel rapport avec l'alimentation, me diriez-vous ? Plusieurs raisons m'ont amené à vouloir traiter de cette question. Tout d'abord, il s'agit d'un point de vue que nous analysons lors de l'audit environnemental que passent les restaurants Ecotable. Ensuite, comme a pu le dire mon invité aujourd'hui, Julien Tchernia, fondateur d'Eka Waters. On dit Eka Waters ?
On dit Équateur.
On dit Équateur.
Comme la ligne imaginaire.
Dans un autre podcast dans lequel il est passé récemment, tout est énergie. Notre alimentation est énergie, elle nous donne de l'énergie et il faut de l'énergie pour la faire pousser, pour la transporter, puis la transformer. Je suis donc ravie d'ouvrir cette thématique aujourd'hui avec toi, Julien. Avant d'entamer notre discussion, je tiens à revenir rapidement sur les principaux chiffres et constats de l'énergie verte. Depuis 2005, le renouvelable est en hausse. Il représentait en 2019 11,7% de la consommation d'énergie primaire en France, ce qui est 70% de plus qu'il y a 15 ans. Le bois, l'hydraulique et l'éolien sont aujourd'hui les sources d'énergie privilégiées. Elles représentent à elles seules près de 65% de l'énergie renouvelable produite. Et de fait, pour de nombreux Français, les énergies dites « renouvelables » sont une évidence. En effet, les énergies fossiles ont un impact considérable sur l'environnement, notamment car elles sont émettrices de CO2, le principal gaz à effet de serre. À côté de cela, l'énergie nucléaire est aussi décriée car elle génère de nombreux rejets radioactifs, thermiques et chimiques dont on ne sait pas encore se débarrasser aujourd'hui. Reste que les énergies vertes font aussi débat. Il est en effet mis en avant le fait que la création de ces énergies, que ce soit des panneaux solaires, des batteries, des éoliennes, nécessite souvent des métaux rares dont l'extraction est polluante. Par ailleurs, elles peuvent créer des nuisances, notamment sonores, dans le cas des éoliennes. Et enfin, on ne saurait aujourd'hui toujours pas recycler ces énergies en fin de vie. En tout cas pour les batteries électriques. J'ouvre donc ce débat aujourd'hui avec toi, Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter Équateur ?
Donc je m'appelle Julien Tchernia, je suis ravi d'être là, je suis le président fondateur, cofondateur d'Équateur. Et nous, on est un fournisseur d'énergie verte, ça veut dire qu'on va amener chez vous l'énergie pour faire marcher votre frigo, pour faire marcher votre four. Je me limite à la cuisine et votre grille-pain potentiellement. Et aujourd'hui, on a 300 000 compteurs en portefeuille. Après 5 ans de création. Et il y a une nouvelle aussi, c'est qu'on vient d'annoncer qu'on allait s'introduire en bourse.
Ah, bravo.
Bientôt. Donc on l'a annoncé la semaine dernière et la date sera connue très vite.
Est-ce que vous changez de forme de société ou tu avais déjà créé une société
On était une SAS, okay. On devient une SA. On change la gouvernance, qui devient maintenant beaucoup plus équilibrée, je trouve. On a fait rentrer des administratrices indépendantes au board. On a changé nos statuts. On est devenu une entreprise à mission. Donc, il y a toute une démarche derrière cette entrée en bourse chez Equateur.
OK. Et l'entrée en bourse va te permettre ?
L'entrée en bourse, l'objectif, c'est de faire de la croissance.
Ouais.
Pourquoi ? On en parlera peut-être. Mais un fournisseur d'énergie, il est en bout de chaîne. Et nous n'aurons un impact sur le mix énergétique français que si nous avons beaucoup de clients. Comme tu l'as dit, 11,8% de l'énergie est renouvelable, même 17% maintenant. On n'a pas beaucoup de clients, finalement, on ne fait que profiter de quelque chose qui existe déjà. Mmh. C'est à nous de créer la demande.
Alors, peux-tu nous expliquer la différence du coup entre un fournisseur d'énergie verte et un producteur d'énergie verte ?
C'est la même différence qu'entre un marchand de fruits et légumes et un agriculteur. Donc, l'agriculteur, il fait pousser des tomates, des courgettes, des abricots et il vend ce qu'il a fait pousser. Le marchand de fruits et légumes, lui, il est en ville près du client et il propose différents légumes de différents agriculteurs d'ailleurs avec différentes qualités et chacun vient acheter ce dont il a besoin chez lui. Donc nous sommes des commerçants.
Ok, mais il me semble que la plupart des grands producteurs sont aussi fournisseurs.
Alors, c'est la spécificité de ce secteur. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un modèle intégré qui a été créé, en fait, au moment de l'électrification du monde, on va dire, mais on va se limiter à la France, en particulier en France avec EDF-GDF, qui a été créé en 1947, et qui, pour accélérer l'électrification du pays, a créé un modèle complètement intégré, où finalement, le producteur est aussi le commercialisateur, et il est resté de manière unique, puisqu'il y a eu un monopole pendant très longtemps, ce qui laisse penser que maintenant, on ne peut pas être commercialisateur sans être producteur. Et c'est l'idée qu'on a grandi avec. Dans les faits, pour les fruits et légumes, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et même nous, on fait d'une force le fait de ne pas être producteur, parce que si vous êtes producteur, quand vous poussez vos clients à faire des économies d'énergie, vous êtes en conflit d'intérêts avec votre métier de production. Quand vous poussez vos clients à devenir producteurs eux-mêmes, à mettre des panneaux solaires sur leur toit, vous, vous créez de la compétition, donc vous êtes en conflit d'intérêts avec votre production. Et je pense que c'est une des raisons du retard que la France a dans le déploiement de panneaux solaires pour les particuliers, par exemple.
C'est spécifique à la France ou dans d'autres pays, c'est pareil?
Ah ben, quand on voit en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, on a 30% des maisons qui sont équipées. En France, on est à moins de 10%. Moi, je suis d'Aix-en-Provence. Et j'ai habité 6 ans en Belgique, je peux vous dire qu'il y a plus de soleil à Aix-en-Provence qu'à Bruxelles. Et pourtant, il y a plus de panneaux solaires là-bas. Et donc, tout ça, c'est que, il y a différents facteurs, mais je pense qu'un de ceux-là, c'est le fait que quand vous êtes producteur et commerçant, ben, vous avez envie de vendre votre production et d'en vendre toujours plus.
Ouais. Tout à fait. Intéressant. Le but de ce podcast, c'est de décrypter les enjeux. Et là, particulièrement, je voudrais commencer par décrypter les différentes énergies vertes. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle énergie verte?
Alors, en fait, énergie verte, c'est pas un terme scientifique. On dit énergie renouvelable. Okay. Et l'idée, c'est une énergie qui va se renouveler naturellement. Je prends l'exemple le plus simple de la rivière. La rivière coule. Je mets une roue de moulin autour de la rivière. La rivière va continuer de couler. Donc, je vais pouvoir reprendre de l'énergie à nouveau. Dans les faits, elle n'est pas renouvelable, cette énergie. Ça n'existe pas, une énergie renouvelable. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a prise à la rivière, on ne va pas la remettre dans la rivière après. Par contre, elle va revenir avec la chaîne du soleil, en fait. Hein. En l'occurrence, là, c'est l'eau de la mer qui s'évapore avec la chaleur du soleil. Il se met à pleuvoir en haut de la montagne et ça retombe. Et donc, c'est en ça que c'est renouvelable. C'est finalement la capacité à l'échelle humaine de ne pas épuiser ces ressources-là grâce à la chaîne du vivant classique. Que ce soit parce que je fais repousser des arbres après avoir fait brûler du bois, que ce soit parce que je capte les rayons du soleil et donc je n'use pas le soleil en captant ces rayons. Et même le fossile est renouvelable, puisque historiquement, le fossile vient de matière organique qui a été piégée et qui est devenue du pétrole ou du charbon. Seulement, ce n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Il faut quelques centaines de millions d'années pour y arriver.
D'accord.
On peut faire 1 litre de pétrole renouvelable sur Terre, j'avais lu quelque part, par an.
Ah oui.
Voilà, mais c'est pas assez.
Oui, en effet, on en est loin. Et est-ce que toutes ces énergies renouvelables se valent? Ou vous avez le choix de 3 énergies, il me semble, le gaz, l'éolien et le bois.
Oui.
Vous n'avez pas fait le choix du panneau solaire?
Si, en fait, nous, on a l'électricité,
d'accord,
le biométhane et le bois.
D'accord.
Et donc, dans l'électricité, tu vas avoir différents modes de production qui peuvent être éoliens, qui peuvent être solaires, qui peuvent être biomasse. Ça, ça dépend un peu de la météo, on va dire.
Ok. Ma question, elle porte sur vraiment l'ensemble de la chaîne de l'énergie verte, que ça soit le moment où on produit le panneau solaire ou l'éolien, jusqu'au moment où on va avoir une quantité d'énergie produite jusqu'à la fin de vie. Si on regarde ça bout à bout, quelle est la meilleure énergie renouvelable?
Mais ça dépend de ton critère.
D'accord.
Pour les économistes, la meilleure, c'est la moins chère. Et donc, en ce moment, c'est le solaire. Le solaire, le coût de production des parcs solaires, on arrive à des coûts en Espagne, par exemple, au Portugal, qui sont, pour donner une échelle de valeur, 20 euros du mégawattheure. Alors que pour comparer, aujourd'hui, le prix de production attendu de l'EPR, si jamais ils arrivent à finir le chantier, ce que je leur souhaite quand même, c'est 120 euros. Donc, on est 6 fois plus cher dans le nouveau nucléaire par rapport au nouveau solaire.
Alors qu'on dit souvent que le nucléaire est l'énergie la moins chère.
Alors, historiquement, oui, avec les centrales déjà construites et déjà amorties. Mais le nouveau nucléaire est une des énergies les plus chères. Donc, pour l'économiste, pour celui même qui se met à le développeur, qui va construire des parcs, il fait son choix. Et donc prendre le risque industriel de faire une centrale nucléaire, c'est possible dans des pays où il y a vraiment beaucoup besoin d'énergie, mais en France par exemple, je trouve personnellement que ça a beaucoup moins de sens. Donc tu as ce critère-là. D'autres critères, ça va être le coût carbone. Et donc là, tu vas te dire, bah, évidemment, le charbon, c'est le pire. Et puis ensuite, je vais descendre en fonction de, du type d'énergie. Si je fais brûler des déchets, ça a quand même un coût carbone plus important que si je fais du solaire ou de l'éolien. Le nucléaire amorti, comme on considère qu'en France, les centrales sont construites avec de l'électricité déjà décarbonée, tu as un coût carbone qui est faible aussi. Donc là, tu peux comparer et ça va dépendre beaucoup de la manière dont ont été construits les moyens de production.
Ouais.
Puisque une fois que tu es sur des moyens décarbonés, ce qui compte, c'est la construction. Après, le nucléaire, il faut très peu d'uranium, et le solaire et l'éolien, il faut rien. Enfin, il y a juste du vent et du soleil. Ce qui va compter, c'est le coût carbone de la construction. Et donc ça va dépendre de ta chaîne de production avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait appel à quoi pour construire tes panneaux solaires ou pour construire tes éoliennes? C'est sûr que si tu as mis de l'électricité charbonnée pour faire ton acier, de ton mât, de l'éolienne, ben, c'est un peu dommage.
Oui, c'est un peu ma question. C'est qu'on reproche souvent aux énergies vertes d'avoir un coût carbone en fait pas si faible. Je me rappelle que d'une comparaison qui m'avait un peu marquée sur la voiture électrique. On dit que la voiture électrique à la construction, elle a un impact environnemental supérieur à la voiture à essence. Et qu'en réalité, on délocalise la pollution dans les pays qui produisent les batteries électriques. Après, c'est tout le débat sur les métaux rares, etc. Quelle est ta position à toi ?
T'as plusieurs choses. Donc d'abord, sur les moyens de production, il n'y a pas de doute. L'énergie renouvelable a un coût carbone très, très faible, beaucoup, beaucoup plus faible que le fossile. On est de l'ordre de 100 à 200 fois moins, quel que soit l'endroit où ils ont été produits et construits. Et on a un coût carbone qui va se régénérer en plus très vite. Hein. Maintenant, on peut arriver avec des panneaux solaires qui, en un an, ont remboursé leur coût carbone. C'est-à-dire qu'ils ont produit une énergie décarbonée qui compense l'énergie qui a été nécessaire pour les construire.
D'accord.
Après, tu peux avoir un débat entre le nucléaire et l'éolien et le solaire. C'est un débat qui est infini et qui dépend de pas mal de choses. Dans les deux cas, on est sur du décarboné. Évidemment, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Tu as parlé des déchets nucléaires. Il y a des risques aussi.
Oui.
Ensuite, le stockage, ça, c'est un sujet qui n'est pas encore mature. On parle de transition énergétique. Parce que justement, on ne pourrait pas du jour au lendemain remplacer notre mode de production énergétique actuel par que du renouvelable. Et donc, il faut des batteries. Et aujourd'hui, les batteries, elles ont beaucoup de défauts. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas à en faire des aussi grandes et aussi puissantes et technologiquement qu'on voudrait. Le deuxième, c'est qu'elles utilisent un certain nombre de métaux. Et comme tu as dit, le coût carbone d'une voiture électrique, une Tesla, c'est lourd. Donc, tu dois quand même faire bouger une tonne de véhicule pour transporter une personne de 70 kilos. Énergétiquement, on est sur une aberration. Et ah oui. Oui, ça c'est pour ça que le vélo, c'est mieux.
Hein. C'est sûr.
Et en plus, tu as un deuxième point sur les batteries, en particulier sur les voitures électriques. C'est avec quoi tu recharges ta batterie. Et c'est là où tu parles de délocalisation de production, de pollution, pardon. Donc, tu l'as au niveau de la production de la voiture. Mais si tu as une voiture électrique, que tu recharges en Allemagne ou en Pologne où l'électricité est produite avec du charbon et que tu prends les rendements des centrales à charbon et finalement en fait tu roules avec une voiture à charbon, donc comme un train à vapeur à l'époque et avec des rendements qui sont moins bons qu'un moteur fossile. Donc la voiture électrique avec certitude déplace de la pollution et donc ce qui compte c'est qu'on l'alimente et qu'on la construise avec des moyens qui eux aussi polluent peu.
C'est toute la difficulté de l'analyse du cycle de vie dans sa globalité. Ouais. Donc, si je comprends bien, ce qu'on reproche, en tout cas par rapport à ces métaux rares, c'est spécifique à la batterie ? Ça n'existe pas dans l'éolien et dans le panneau solaire ?
En fait, c'est pas des métaux rares, c'est des terres rares.
D'accord.
Qui ne sont pas rares.
Ok.
C'est qu'ils sont diffus. Donc ça, c'est important. On ne va pas en manquer. Tu vois, par rapport au pétrole, où on dit on va arriver un jour, il n'y en aura plus. L'uranium, un jour, il n'y en aura plus. Les terres rares, elles sont rares parce que il y en a beaucoup partout, mais très, très faiblement concentrées. C'est pour ça que l'extraction est compliquée, parce qu'il faut extraire des tonnes et des tonnes de terres normales pour récupérer ce dont on a besoin. Et ces terres rares servent dans tous les matériels électroniques. Dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ta voiture, dans toutes les centrales et aussi dans les panneaux solaires et dans les éoliennes en particulier, et surtout les éoliennes. Et donc effectivement, là à nouveau, c'est finalement ton cycle de production, c'est comment tu as extrait ces terres rares qui vont avoir un impact. Il y a de toute façon toujours des gens qui décrient dans un sens ou dans l'autre. Et il n'y a pas de bonne solution pour produire de l'énergie propre. Ça n'existe pas.
Tu veux dire le mot énergie propre n'existe pas ?
Non. Tu as l'énergie renouvelable, c'est-à-dire je n'épuise pas les ressources, ce qui est l'opposé du pétrole, du charbon et de l'uranium. Là, j'épuise les ressources, un jour, il n'y en aura plus sur Terre. Voilà. Et en plus, il y a un deuxième niveau qui est le taux de CO2 qui est émis, qu'il faut prendre, comme tu dis, dans l'ensemble du cycle de vie, y compris l'extraction, etc., etc. Et donc ça, ça se mesure, ça se calcule. Et les moyens de production renouvelables, il se trouve qu'ils sont aussi très peu émetteurs de CO2 sur leur durée de vie. Et après, il faut aussi trouver une solution pour le stockage. Et ce jour-là, on aura fini la transition et on sera passé là-dessus, sur un monde 100% renouvelable. Il y a déjà eu du 100% renouvelable.
Ah oui ?
Ouais. Où ça ? Qui marche partout, sur l'ensemble de la planète. Juste avant la révolution industrielle. Tout était 100% renouvelable jusqu'au 18e siècle.
Avec
tout
des moulins.
Était 100% renouvelable. Avec des moulins, avec des chevaux, avec des bœufs et avec de la nourriture. La moitié des surfaces agricoles étaient là pour faire de l'avoine, pour nourrir les bêtes qui fournissaient l'énergie. Donc, ce monde 100% renouvelable-là, on n'a plus trop envie d'y retourner. On va avoir du mal. Hein, on se chauffait avec du bois, mais on avait froid quand même. Et donc, on a trouvé des sources d'énergie extrêmement peu chères. Le charbon, le pétrole, qui ont fait qu'on s'est gavé d'énergie et qui font qu'aujourd'hui, on a des voitures, on peut aller en avion à Honolulu et on peut faire du jet ski et ça nous coûte rien. Et donc, c'est devenu une drogue. Et il faut, à mon sens, on va avoir du mal à sevrer les gens de cette drogue. Donc, il faut trouver des moyens d'obtenir de l'énergie à peu près au même prix et avec des conséquences environnementales beaucoup plus faibles.
Mais ce que tu dis quand même, c'est qu'il va falloir, à un moment ou un autre, réduire cette consommation d'énergie. C'est-à-dire, si on veut faire cette vraie transition écologique et donc énergétique, il va falloir quand même qu'on consomme un peu moins, vu qu'aucune énergie n'est complètement propre.
Il va falloir être plus efficace et consommer moins, et peut-être aussi être moins nombreux. Enfin, il y a une équation à trois inconnues. Le nombre de personnes, le rendement et le coût carbone de l'énergie qu'on produit. Il faut attaquer sur ces trois aspects-là. Par contre, se dire que tout le monde va arriver à revenir au monde 100% renouvelable d'avant la révolution industrielle, je pense que c'est une utopie. Les gens ne sont pas prêts à se sevrer de ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça veut dire si on n'y arrive pas ? Enfin, si on force les gens à faire ça, va y avoir des manifestations, on le voit déjà, hein, les bonnets rouges, les gilets jaunes. Au départ, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Mais inversement, si on fait rien, on finit par une augmentation de la température et donc on va manquer d'eau et de nourriture et donc là ça va être la guerre civile aussi. Et donc le chemin pour éviter la guerre civile est difficile.
Oui, complètement. On parle à ce moment-là quasiment d'effondrement en fait, si on retourne à cette vie pré-industrielle.
J'ai créé Équateur parce que je me suis dit dans le début des années 2000, le monde va devenir comme Mad Max 2 et je veux pas.
Je comprends. Tu as parlé plusieurs fois de la durée de vie du stockage. C'est une question qui m'interroge aujourd'hui. Est-ce qu'on peut stocker l'énergie dite renouvelable, à part en batterie ? On sait aujourd'hui stocker l'énergie qui vient d'une éolienne, qui vient d'une...
On ne sait pas bien stocker l'énergie électrique en général.
D'accord.
Voilà. Donc, qu'elle soit renouvelable ou pas, le problème n'est pas là. C'est comment je stocke de l'énergie, c'est une pile, hein. Ce qu'on sait bien, l'énergie qui est stockée et qu'on sait bien utiliser, malheureusement, c'est le fossile. Le pétrole, c'est un gros stock d'énergie. Le gaz, c'est un gros stock d'énergie. Et il est là, tu le mets dans une cuve, et puis t'attends, et tu t'en sers quand t'en as besoin. C'est ça la force aussi du fossile, c'est cette facilité de stockage et de le transporter ensuite. Sur le transport de l'électricité, tu perds 15% de ta consommation. T'as des pertes. Je sais pas si tu vois, mais les lignes à haute tension, des fois, elles sont très basses.
Ouais.
Et des fois, elles sont hautes.
Ouais.
Quand elles sont très basses, c'est qu'il y a beaucoup de courant qui passe dessus, ça la fait chauffer, elle se dilate, et donc elle est très basse. Donc, quand vous voyez des lignes à haute tension très basses, ne vous approchez pas, c'est le moment où c'est le plus dangereux. Mais donc, si elle chauffe, c'est bien qu'on chauffe les petits oiseaux, quoi.
Ouais.
Donc, on perd cette énergie-là. Donc, l'électricité a ses défauts, et si on arrive à la stocker, alors il y a l'hydrogène, il y a le biométhane pour certains, il y a plein de solutions technologiques que je ne connais pas et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, ça c'est ce qui me rassure. Et ça nous permettra, le but c'est de stocker, de transporter de l'énergie et si en plus elle est produite de manière renouvelable, alors là on commence à aller vers un monde qui sera plus viable à moyen terme.
Et mais toi tu t'es quand même mis au biométhane.
Oui.
Pourquoi ?
Le Pourquoi? Parce que c'est renouvelable, en fait, tout simplement.
Explique-nous ce que c'est que le biométhane.
Donc, le biométhane, tu prends des déchets organiques, typiquement du lisier de porc, et tu le laisses pourrir dans une grande cuve, et en pourrissant, il crée du méthane, tout simplement. Et donc, tu vas récupérer, finalement, l'énergie qui était stockée sous forme de chaîne carbonée, hein, je rentre dans la technique, mais dans la matière organique, pour quand elle se décompose, elle crée du méthane. C'est comme un marais. Dans les marais, il y a des feux follets, et donc tu vas capter ce méthane-là.
Okay.
Après, je trouve que le biométhane, par exemple, par rapport à l'électricité, a cet avantage que c'est justement stockable. Le problème de l'électricité renouvelable, tu en parlais tout à l'heure, c'est en réalité, quand les gens achètent du 100% renouvelable, que ce soit chez nous ou chez d'autres fournisseurs, l'électron qui sort de la prise, il n'est pas renouvelable. Hein.
Oui, ça, on allait en parler. C'est que comment tu fais pour garantir à tes clients qu'ils consomment de l'énergie renouvelable? Tu peux pas.
Donc, tu peux pas. Personne peut. Donc, en fait, ce que tu garantis, c'est que sur une période donnée, typiquement un mois, il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée sur le réseau que ton client n'en a consommé et que cette énergie renouvelable n'est comptée que pour lui dans le système. Pas que ce soit compté deux fois.
D'accord.
Par contre, ça n'a pas été produit en même temps que ça a été consommé.
Ok.
Parce que, évidemment, si j'achète tout chez un panneau solaire, si mon client dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce panneau solaire, il faut quand même que j'alimente son frigo la nuit.
Ouais.
Et donc, je vais acheter de l'énergie ailleurs et je vais revendre du surplus solaire la journée pour que sur le mois, il y ait un équilibre, c'est-à-dire que le panneau solaire aura bien produit autant d'énergie que le client en a consommé, mais pas au même moment.
Ok.
On ne sait pas encore au même moment. Entre autres à cause des problèmes de stockage. Et puis en plus, les électrons se mélangent.
Oui, bien sûr.
Et s'il faut construire un deuxième réseau électrique, alors là, au niveau environnemental, c'est du n'importe quoi.
C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique.
Et c'est pour ça que je veux bien le biométhane. C'est parce que l'énergie renouvelable, l'électricité, en France, comme on est beaucoup au chauffage électrique, il y a des pics de consommation. Et quand tu as un pic de consommation, il y a quand même un moment quelque part, à cause de ton pic, même si sur un mois, il y a un panneau solaire qui a produit ce que tu consommes, mais à un moment, il a fallu allumer une centrale à gaz pour compenser ton pic de consommation le matin ou le soir quand tu fais chauffer tes pâtes ou ton café.
Ouais.
Et ça, c'est assez carboné. Donc, le biométhane me permet, à titre perso, de me dire, là, j'ai une énergie renouvelable qui n'a pas d'impact sur les pics de consommation électrique et donc qui permet d'avoir un peu moins de carbone dans le mix moyen français. On est sur...
Ok, alors attends, que j'arrive à suivre. Pourquoi ça n'aurait pas d'impact sur le pic?
Parce que le biométhane, moi je vais me chauffer au biométhane.
Ouais.
D'accord? Et donc, c'est complètement indépendant de l'électricité.
Ok.
Donc, je ne vais pas consommer beaucoup d'électricité,
oui,
au moment où tout le monde consomme beaucoup d'électricité.
Parce que c'est un gaz en fait, le biométhane.
Parce que c'est un gaz. Et qu'il passe par un autre tuyau.
D'accord.
Tout simplement. Et sinon, pour ceux qui sont en chauffage électrique, on a une solution quand même aussi. qui s'appelle l'effacement diffus. Donc, c'est un boîtier qu'on va mettre chez vous et on va essayer de couper pendant 5-8 minutes votre chauffage ou votre chauffe-eau si c'est un moment de pic de consommation. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce que 8 minutes de chauffage en moins, ça ne se voit pas, ou le chauffe-eau, vraiment, ça ne se voit pas du tout. Et au moins, ça évite de participer au pic français.
Donc, tu essayes quand même que tes clients réduisent leur consommation d'énergie?
Oui, qu'ils réduisent, qu'ils la rendent plus vertueuse. Et puis, on a créé un business model où on gagne plus d'argent quand ils réduisent leur consommation que quand on leur en vend.
C'est-à-dire?
Eh bien, comme je ne suis pas producteur, moi, quand j'achète et je revends l'énergie, je fais juste une toute petite marge de production comme les marges faibles des supermarchés, par exemple.
Ouais.
Alors que si je vais vendre un service qui est une nouvelle chaudière plus efficace, qui est un panneau solaire, là, c'est des produits sur lesquels je vais gagner plus d'argent que la marge que j'aurais faite sur les mégawattheures que j'aurais vendues.
Okay.
Moi, c'est très important dans le modèle d'entreprise à mission, c'est qu'il faut quand même un business model qui soit aligné à tes valeurs.
Bien sûr.
Sinon, au bout d'un moment, tu es en conflit d'intérêts et ça rate. Évidemment, si tu es producteur, tu finis en conflit d'intérêts pour vendre de l'économie d'énergie. Nous, vendre de l'économie d'énergie ou de l'énergie, c'est pareil. Et en plus, il se trouve qu'on gagne plus d'argent en vendant de l'économie d'énergie. Donc, c'est un peu plus compliqué à vendre, mais on gagne plus d'argent. Donc, tout va bien.
Ok. C'est-à-dire que tu fais pas, ton business model, il est pas basé sur les certificats d'origine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un certificat d'origine?
Oui, les garanties d'origine.
Garanties d'origine, pardon.
Ça, c'est pas un business model. Ça, c'est le seul moyen légal de dire que tu es 100% renouvelable. Mmh. Et c'est ce qui permet de répondre à la question dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est est-ce que cette énergie n'est bien comptée que pour moi?
Ouais.
Si tu veux, comme tout se mélange, moi, je suis acheteur, je vais voir un producteur, je lui dis, s'il te plaît, vends-moi ton énergie solaire, je suis prêt à la payer un peu plus cher. Il me dit d'accord, il la vend. Et s'il n'a pas de certificat de traçabilité, s'il n'y avait pas de système de traçabilité, il pourrait avoir une deuxième personne qui vient et qui dit « Vends-moi aussi ton énergie ». Et lui, il fait croire qu'il la vend, mais en fait, il la prend au réseau et il me la revend plus cher.
D'accord.
Et donc, dans ces cas-là, tu n'as aucun moyen de traçabilité. Donc, pour éviter ça, l'Europe a mis en place des garanties d'origine qui sont finalement un certificat de traçabilité. Et donc, un producteur de renouvelables gagne des garanties d'origine chaque fois que son énergie renouvelable est injectée sur le réseau.
Mmh.
Et nous, on va les acheter et on va les jeter à la fin. Enfin, on va les effacer. On va les sortir du registre européen. Et donc, comme ça, on est sûr que ce producteur-là, son mégawattheure renouvelable, moi, je l'ai, on va dire, réclamé pour mes clients, mais plus personne d'autre pourra le réclamer.
Je comprends. Mais ce qui veut dire aussi que tu peux acheter à des personnes extrêmement diverses.
Tu peux acheter à des personnes extrêmement diverses. Nous, par exemple, on a deux offres. Une offre classique, 100% renouvelable, la moins chère qu'on peut. Ça veut dire qu'on va acheter les garanties d'origine les moins chères qu'on va trouver.
Donc, pas forcément en France, j'imagine.
Donc, pas forcément en France. Alors, il se trouve qu'en ce moment, c'est en France parce qu'elles sont pas très chères. Mais s'il faut aller en Norvège, on ira en Norvège. Et on explique ça aux clients. Et l'autre offre, où là, effectivement, on va choisir des producteurs qui sont français, qui sont de petite taille, des petites centrales, et où là, bah, eux, ils vont nous vendre plus cher leur garantie d'origine. Donc, le produit est plus cher pour les clients et on laisse le choix. D'un point de vue environnemental, que tu es produit en Norvège ou que tu es produit en France, c'est à peu près la même chose.
Il y a quand même cette histoire du transport de l'énergie, puisqu'il faut que l'énergie en Norvège aille en France à un moment ou à un autre.
Oui, sauf que non, et c'est la limite du système, c'est que ta garantie d'origine, elle est séparée de l'énergie pure. Voilà, donc le producteur va produire son énergie, qui va être mise sur le réseau, qui va être consommée par quelqu'un, et il va produire son certificat, sa garantie d'origine, que toi tu vas acheter. Mais je ne suis pas obligé d'acheter l'énergie du barrage norvégien pour avoir la garantie d'origine du barrage norvégien.
Ah oui, d'accord.
Et c'est ça qui rend très, très compliqué le système. Et donc, nous, dans l'offre petit producteur, on dit on achète et l'énergie et la garantie d'origine à la même centrale.
Et pour l'autre offre, qui est donc l'offre la moins chère, là, tu vas acheter la garantie d'origine au moins cher.
Ouais.
Et
l'énergie la moins chère.
OK.
Et je vais faire la somme à la fin. Et d'un point de vue purement environnemental, c'est la même chose. C'est-à-dire que le producteur qui vende son énergie d'un côté et sa garantie d'origine de l'autre, ou qui vende son énergie et sa garantie d'origine à la même personne, il n'est pas moins ou plus renouvelable à cause de ça.
Oui, c'est sûr, mais il y a toujours quand même cette question du transport qui m'interroge. J'imagine que ton offre premium...
La question, c'est où va ton argent?
Oui.
Et ça, c'est une question qui est importante, qui est sur le court terme, d'un point de vue environnemental, elle change rien. Que ton barrage soit en Norvège ou en France, qu'il soit gros ou petit, ça change rien. Par contre, sur le moyen terme, c'est-à-dire finalement, je vise quoi? Une décentralisation de l'énergie, des moyens de production plus proches, donc moins de pertes de transport. Et c'est là où ton discours a du sens. C'est-à-dire qu'à moyen terme, je trouve que notre offre petit producteur apporte plus de valeur écologique. Par contre, sur l'instant, je n'ai pas le droit, malheureusement, de dire que mes gros concurrents producteurs ont une offre moins verte que la mienne.
D'accord.
C'est pas vrai. N'y allez pas quand même, mais c'est pas vrai. Par contre, à moyen terme, c'est pas du tout le même impact, évidemment. Et puis après, quand on donne de l'argent à des gros manias de l'énergie, ils s'en servent pas que pour faire du renouvelable parfois, alors que nous, oui.
D'accord. C'était un peu ma question que je voulais te poser après, mais là, ça rentre dans la discussion qui est quelle est la différence entre les différents fournisseurs d'énergie verte, c'est-à-dire qu'il y a toi, il y a Enercop qu'on connaît parce que c'était peut-être un peu les pionniers,
ouais.
Qui sont en tout cas vus comme très engagés.
Mmh, ils sont très engagés.
Et on a Total et Engie qui s'y sont mis.
Ouais, j'avais pas dit les noms. tout le monde s'y est mis, hein, donc il y a une quarantaine de fournisseurs. Donc, Enercop, effectivement, sont les pionniers, ils sont là depuis même avant l'ouverture à la concurrence au marché. Enercop a un modèle, donc d'un point de vue énergétique, on a les mêmes ambitions, changer le mix énergétique et pousser les gens à acheter du renouvelable pour pousser les producteurs à produire du renouvelable. Eux, ils ont un modèle qui est coopératif. Nous, on a un modèle qui est société anonyme, comme je t'ai dit. Donc, on a deux visions, on va dire, économiques différentes et on a la même vision écologique. Et après, bon, bah, chacun fait son choix. S'il y a un client qui part chez Enercop, c'est un gain pour la planète. Donc, tu vois, il n'y a pas de, on n'est pas en opposition. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas tout à fait le même type de client. Enercop, tu vas avoir les très militants parce qu'ils vendent beaucoup plus cher que le tarif moyen. Nous, on va avoir des gens plus monsieur, madame classique qui viennent chez nous pour le verre et aussi pour autre chose, le service client français, etc., etc., et qui finalement font du verre un peu malgré eux dans certains cas, tu vois.
Mais la différence quand même entre Enercop et toi, c'est que est-ce que Enercop garantit du coup l'origine aussi de leur...
Alors Enercop, comme nous, utilise les garanties d'origine.
D'accord.
Parce que c'est le seul moyen légal d'en être sûr. Et comme notre offre petit producteur, ils achètent aussi l'énergie auprès du client. Donc si tu veux, notre offre petit producteur, c'est la même d'un point de vue énergétique et économique que l'offre d'Enercop.
Okay.
Après, tu as voilà, un aspect, eux c'est une coopérative, nous on a une SA... nous, on vend du gaz, ils n'en vendent pas, etc. etc., etc. Donc
d'accord.
Là, après, tu vas trouver des différences comme entre aller chez Bio C'est Bon ou Naturalia.
Oui, oui, complètement.
On se retrouve sur là, mais à la fin, c'est quand même bien. Enfin,
en tout cas, c'est mieux.
Mieux, voilà. alors que Total et Engie, eux, ça va être, si tu veux, je fais toujours le parallèle avec la vente d'anticipation, ça va être le rayon bio du Carrefour. Voilà. Et c'est pas mal non plus, hein. Je veux pas, enfin moi j'ai pas de jugement de valeur à émettre. C'est un choix personnel, chacun peut le faire, et c'est déjà bien d'aller au rayon bio de Carrefour que d'aller au rayon classique de Carrefour. Donc je veux pas, enfin toute bonne action est bonne à prendre dans l'objectif global que je me donne à titre personnel. Après en tant que patron d'Équateur, moi je préfère que vous alliez chez moi, c'est sûr.
Et en termes de prix, alors tu l'as dit, Enercop est plus cher. Comment ils se positionnent Total et Engie sur le prix de cette énergie verte?
Total, Engie et nous, tous les fournisseurs, à part donc un ou deux, sont à peu près sur la même échelle de prix.
D'accord.
Tu peux pas vraiment casser les prix dans l'énergie, puisque tout le monde achète l'énergie à peu près au même prix. T'as un indice boursier qui fait que t'as beaucoup de transport dont tu parlais, qui est un prix de service public, donc tout le monde paye la même chose.
Ah, il faut payer le transport de l'énergie. C'est toi qui le payes.
Oui, en fait, c'est nos clients qui le payent et nous on le transmet ensuite à Enedis pour l'électricité et à GRDF pour le gaz.
Okay.
Et puis t'as des taxes qui sont énormes aussi, donc t'as 30% de taxes sur ta facture, t'as 30% de transport et distribution, t'as 30% d'énergie, il te reste que 10% pour le fournisseur. Donc tu peux pas vraiment casser les prix, et même si beaucoup de nos concurrents font des batailles là-dessus et ils vont dire moi j'ai moins 9%, moi j'ai moins 10, moi j'ai moins 11, moi j'ai moins 12, entre moins 11 et moins 9, je dis comme ça, je fais le calcul de tête, mais tu dois avoir une différence de 1 euro par mois, 2 euros par mois.
Okay.
Pour des factures de 1200 euros par an.
Okay.
Donc en fait, c'est pareil. C'est à peu près le même prix pour tout le monde. Tu vas avoir des petites batailles après, machin fait la promo. Ça, c'est le jeu classique de la concurrence, quoi.
On n'a pas encore parlé du bois. Il me semble que comme le biométhane, c'est une énergie qu'on peut transporter,
oui.
Qui se stocke.
Oui.
Ce qu'on peut reprocher éventuellement au bois, c'est la pollution sur place, les particules fines. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette énergie?
Alors nous, on vend des bûches de sucre compactées. Qui ont un niveau d'émission de particules fines qui est négligeable, enfin c'est 100 fois moins élevé que du bois classique.
D'accord.
Donc en fait nous ce qu'on fait c'est que, enfin c'est notre partenaire, nous on l'achète tout fait, mais il récupère la sure de scierie de fabricants de meubles qui devrait normalement être jetée. On prend toujours des fabricants de meubles qui utilisent des forêts éco-gérées. Hein, et en France, pour être sûr qu'ils replantent autant d'arbres qu'ils n'en coupent. Et on prend cette sure qui normalement est un déchet, on la compacte, sans colle, sans rien, on la compacte fort, et ça donne des bûches qui sont très énergétiques, très sèches et sans particules fines.
D'accord.
Et donc c'est ça qu'ensuite on va vendre aux clients.
Ça reste une énergie intéressante aujourd'hui.
Pour moi, c'est une énergie comme une autre, beaucoup moins cher, deux fois moins cher que l'électricité. Donc pour te chauffer, un client électrique qui vient nous dire j'ai un problème de facture. La bonne solution, alors il faut pas une cheminée ouverte, hein, mais c'est un poêle à bois. Et un poêle à bois, tu payes moins cher, t'es une énergie renouvelable comme une autre, et si tu prends des bûches comme je viens de décrire, tu n'émets pas de particules fines. Donc, t'as tout gagné.
Intéressant. Aujourd'hui, par rapport toujours à cette question des énergies vertes, quelles mesures pour toi pourraient favoriser les énergies vertes? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, tu l'as déjà dit, il y a le conflit d'intérêts, mais est-ce qu'on a d'autres mesures qu'on pourrait mettre en avant pour favoriser dans le mix énergétique les énergies renouvelables?
Ouais, j'en ai une en tête. Ouais. non, mais il y a une forte réticence un fort retard en France sur le renouvelable. Tu vois, par exemple, les parcs éoliens en mer, on n'en a pas, alors qu'en Angleterre, ils sont déjà en train de faire la rénovation des premiers parcs. Que comme je t'ai dit, le solaire est très peu diffus, etc. Il y a en France un fort lobby orchestré évidemment par ce dont c'est l'intérêt et le principal, c'est EDF, pour sauvegarder leur mode de production à eux, parce que c'est leur intérêt. Ils ont des centrales nucléaires qui fonctionnent, ils gagnent de l'argent avec, ils n'ont aucun intérêt à faire qu'il y ait des concurrents partout qui se créent là-dessus. C'est normal. Et eux ont beaucoup de pouvoir, d'influence, et puis ils ont des arguments qui sont justes aussi, certains d'entre eux. Et donc, faire sauter ce pouvoir d'influence-là, je pense que ça aiderait, mais je ne sais pas comment on peut faire.
Et puis, en tout cas, là, d'avoir peut-être un contre-lobby.
Tu vas te prendre des tas de commentaires du lobby qui dit nana, n'importe quoi, Tchernia, tac, tac, tac. Encore un fou avec ses énergies renouvelables intermittentes. Tu t'en rends pas compte. Et si je me rends compte que Kodak faisait de l'argentique et qu'il y a eu du numérique et que Kodak a dit que l'argentique, c'était le futur et en fait, ils se sont plantés. Voilà.
Je comprends. Tu nous as parlé justement des éoliennes offshore. Ça m'interroge par rapport à la nuisance des éoliennes dont on n'a pas encore parlé. On reproche souvent aux éoliennes les nuisances sonores. J'ai lu que c'était une des raisons pour lesquelles justement on ne voulait pas en mettre en mer. C'était parce que ça pouvait entraîner des nuisances aussi au niveau marin et que les pêcheurs étaient plutôt contre. Comment tu te positionnes sur cette question ?
Mais produire de l'énergie, ça crée des nuisances. Donc que tu mettes une centrale charbon, une centrale nucléaire ou des éoliennes devant la maison de quelqu'un, tu peux pas espérer qu'il va trouver ça bien. c'est pas possible de dire « Ah mais non, mais regarde, elles sont jolies tes éoliennes, elles sont blanches, ça tourne. » Tous les mecs avant, il avait un beau paysage. Évidemment, ça fait un peu de bruit ou beaucoup de bruit, ça je sais pas, ça dépend des technologies. Ce que je constate, c'est que il y a un groupe de population en France qui a accepté de détruire complètement son paysage sans râler et même en étant content et en remettant des pièces dans le modèle et sans se poser la question des papillons et des oiseaux, ce sont les stations de ski. Les montagnards, ils ont foutu des télésièges, des téléphériques, des téléskis partout et la montagne, elle est moins jolie avec les télésièges, les téléskis et les téléphériques. Et pourtant, ils râlent pas. Et pourquoi ils râlent pas ? Parce qu'ils en ont un retour économique direct très important. Et donc, je pense que le fond du problème d'acceptabilité, c'est que si j'ai une nuisance, elle mérite d'être compensée d'une manière ou d'une autre. Sinon, évidemment, je râle. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil si on met un aéroport à côté de chez moi. Et donc, nous, chez Équator, on a essayé de bosser avec quelques développeurs en disant « Redonnez l'énergie locale de votre parc de renouvelables aux citoyens en leur faisant une réduction. C'est très bien de payer la location du champ et l'agriculteur en question va lui gagner de l'argent, mais pas les autres. Or, les autres subissent tous cette externalité, cette nuisance-là. Donc, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Et nous, on joue le rôle d'intermédiaire en disant, bon, vous habitez là, vous avez un prix canon. Et donc, si vous acceptez qu'on mette ce parc de production chez vous, eh ben, vous aurez un prix d'électricité canon. Et là, d'un coup, ben, les gens, ils se disent, OK, je choisis. Tu vois, je finalement, il y en a qui vont y voir leur intérêt. Ils se disent, OK, c'est moche, mais je fais des économies et donc ça a de la valeur autrement. Et si on fait pas comme ça, si c'est juste, je suis un grand groupe, je m'appelle Total, je m'appelle Engie, pousse-toi de là, j'ai filé de l'argent pour refaire le toit de l'église et bing, je mets mes trucs. Évidemment, les gens, ils sont pas d'accord.
Tu dis que toutes les énergies causent des nuisances. J'ai l'impression que le solaire, quand même, subit un peu moins de critiques. Est-ce que c'est vrai ?
Bon, ça dépend. Tu peux en trouver des critiques qui disent que c'est, si tu mets des parcs solaires sur le sol, tu es en concurrence avec du sol qui pourrait être pour l'agriculture.
Oui, c'est vrai.
Et donc, comment on va faire pour couvrir assez de surface en panneaux solaires, etc., etc. Le solaire sur le toit des maisons, lui, jusqu'à présent, personne gueule à part sur le fait que ça crée des pics de production à midi et que pour l'instant on consomme pas beaucoup à midi. Bon, mais c'est aussi parce qu'on a réglé nos chauffe-eau à 23h. Si tu règles tes chauffe-eau à midi, bah déjà tu résous une partie du problème.
Et par rapport à la fin de vie de ces énergies, on sait faire quelque chose aujourd'hui de ces éoliennes qui vont. Alors déjà, combien de temps dure est-ce que tu sais une éolienne, un panneau solaire
Alors moi, ce qu'on me vend, c'est des durées de vie entre 20 et 30 ans.
Pour les deux.
Et est-ce que c'est rétrofit ? Est-ce qu'on peut les renouveler après ? Est-ce qu'on peut les réparer ? Normalement, les panneaux solaires devraient pouvoir durer plus longtemps, mais peut-être avec un moins bon rendement. Les éoliennes, je sais pas. Sur une éolienne, le mât est en acier, donc il est complètement recyclable. La partie électronique et moteur est recyclable. Donc les pales, qui sont elles en fibre de carbone, sont pas recyclables. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait des planches à voile ? Et qu'est-ce qu'on fait des mâts de bateau? Et personne s'est jamais posé cette question-là. Donc, il y a quand même des gens qui ont dit « Ah, regarde les pales des éoliennes, c'est pas bien !» Mais ils n'ont jamais gueulé contre les kitesurf. Et on en a beaucoup, des kitesurf.
C'est pas la même quantité, si ?
Oh ben, combien il y a de surf dans le monde moi non plus, je sais pas. Mais le nombre de pales d'éoliennes et le nombre de planches à voile...
C'est pas la même taille non plus ? C'est énorme, une pale d'éolienne.
Oui, c'est énorme. Mais je pense qu'il y a bien... Il n'y a que trois pales par truc. Je ne sais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème spécifique à l'éolien. C'est un problème spécifique à la gestion des déchets de l'activité humaine. Et que des fibres de carbone, tu en as aussi dans toutes les carrosseries de voitures. Et là, tu dois en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et donc, personne ne s'est jamais posé cette question-là. Elle est légitime, la question, par rapport aux pales d'éoliennes. Et en fait, elle n'est légitime que si elle est élargie à. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces matériaux en fibre de carbone depuis les surfeurs, j'aime bien le surf, jusque aux carrosseries de voitures le problème il va au-delà de l'éolienne. Et derrière, si tu mets pas d'éolienne, tu produis avec quoi? Et donc le moins carboné, c'est la centrale nucléaire.
Qui crée des déchets.
Moi, en 2000, j'avais une équipe qui faisait du travail sur le retraitement de déchets nucléaires en Belgique. Ils étaient trois consultants. Tes cuves sont irradiées. C'est des kilos et des tonnes d'acier qui sont irradiées. On ne sait pas quoi en faire. Si tu envoies un robot dans la cuve pour essayer de raser juste la partie qui est irradiée pour essayer de diminuer le volume de déchets irradiés, ton robot, à l'époque en tout cas, il meurt très très vite, mais c'est en quelques heures, hein, tellement il est irradié. Donc, peut-être maintenant, ils ont amélioré en 20 ans la techno, mais donc t'as aussi des déchets dont tu ne sais pas quoi faire. Le projet Cigéos à Bure, que j'ai visité, ils m'ont invité, je les remercie pour ça. C'est d'un point de vue... génie humain, c'est incroyable, c'est énorme. T'as des galeries à 500 mètres de profondeur avec des machines énormes, des chercheurs qui réfléchissent à tout au futur. C'est très très beau à voir. C'est un projet qui s'étale sur 150 ans. C'est-à-dire qu'ils considèrent que dans 150 ans, ils auront fini de stocker les déchets qu'on a produits pour l'instant.
Ouais.
Donc c'est quand même pas simple non plus.
Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et en comparaison, le solaire, qu'est-ce que tu en fais derrière des panneaux solaires ?
Je pense que j'ai pas la réponse. Pour D'accord. moi, c'est une problématique de recyclage comme un frigo ou une voiture. Et donc il faut l'affronter, bien sûr.
Mais tu sais si aujourd'hui les panneaux solaires sont recyclables ?
J'ai pas l'info.
Ok. Je voudrais qu'on parle aussi un peu d'alimentation, évidemment, c'est à l'origine le but de ce podcast. Est-ce que toi, déjà, dans tes clients, tu as des agriculteurs ? Est-ce que tu le sais ?
Je le sais pas, j'en suis à peu près sûr. Au moins un qui a sa petite éolienne à lui et dont on rachète l'énergie, qui est le premier client à qui on a signé un contrat de rachat de surplus d'énergie avec son éolienne dans son champ.
Donc lui, qui est producteur aussi, du coup.
Et donc lui, il est producteur à titre perso. Okay. Sauf qu'au lieu d'avoir mis des panneaux solaires sur son toit, il a mis une éolienne dans son champ, ce qui est assez rare.
Ça m'amène à une question. Est-ce que tu incites tes clients à produire eux-mêmes leur énergie en mettant des panneaux solaires, des
Alors
éoliennes ?
Même en ce moment, on a un achat groupé. Allez vous inscrire sur equateur.fr pour vendre le kit solaire. C'est le premier pas vers la production d'énergie solaire. C'est un petit kit qu'on monte en un quart d'heure, qu'on branche dans une prise. On n'a besoin d'aucune connaissance. C'est moins cher qu'un iPhone. Et donc là, on fait un achat groupé. Et plus il y aura de préinscrits, plus on arrivera à avoir un bon prix. L'an dernier, on a eu 1700 clients qui ont acheté ces petits panneaux-là.
Et qui le mettent
mettent dans leur jardin, qui le branchent sur leur prise. Et après, ça produit, disons, ce que consomme ton frigo dans l'année.
Et donc, ça permet de faire des vraies économies d'énergie ou c'est plus militant comme démarche ?
Les deux. Okay. C'est à la fois militant et ça fait des économies d'énergie. Et c'est alors beaucoup de clients calculent la rentabilité. Et donc, effectivement, c'est rentable entre 5 et 10 ans, suivant où tu habites en France et comment tu as exposé ton panneau, bien au sud ou pas bien au sud. Donc là, tu fais des économies d'argent. Tu fais pas d'économie d'énergie en soi parce que tu consommes la même énergie qu'avant, hein, mais sauf que tu la produis toi-même, elle est renouvelable. Tu fais des économies d'argent et puis c'est militant parce que tu te mets dans une démarche où ben voilà, je commence à produire moi quoi. Et ça c'est très important, c'est comme la machine à pain. Moi j'ai vu personne me demander est-ce qu'une machine à pain c'est rentable ? Est-ce que je vais faire des économies par rapport au pain que j'ai racheté chez le boulanger ? Personne se pose cette question.
C'est sûr que c'est pas rentable.
Et c'est probable. Ou si tu vas dans d'autres équipements un peu moins glamour, le home cinéma, personne se dit combien je vais faire d'économies sur les tickets de cinéma. Et par contre sur le solaire, c'est combien je vais faire d'économies avec mon panneau solaire ? La première démarche que moi je défends, c'est produit. Fais-la toi-même. C'est ça qui est beau. Effectivement, il se trouve que, et ça tombe bien, c'est rentable. Mais c'était pas ma première ambition.
D'accord, je comprends. Et donc, si on revient à nos agriculteurs, il y a tout un débat, notamment sur les serres chauffées. Donc, certains agriculteurs poussent leur production pour faire du hors-saison, notamment, ou en tout cas pour augmenter la saison. C'est plus ou moins interdit en bio. Il y a eu tout un débat sur les tomates. Désormais, en gros, on peut chauffer les serres 2-3 mois par an, alors qu'avant, on pouvait toute l'année. Et justement, en bio, ils essayent de faire valoir qu'il faut, pourquoi pas chauffer les serres, mais au moins avec de l'énergie verte. Est-ce que tu as un avis sur cette question-là, sur la façon dont on produit notre agriculture et l'énergie qu'on utilise ?
J'ai un avis sur la consommation d'énergie en général, que ce soit pour les serres ou pour chez toi. Si tu fais chauffer ta serre avec du gaz, avec de l'énergie électrique produite par du charbon ou du gaz, tu participes à l'effet de serre de manière importante, en fait.
Bah, c'est pour ça qu'on dit que le hors-saison est 10 fois plus carboné que le hors-saison.
Ah, mais c'est évident. C'est une certitude. Je n'ai pas les chiffres, mais en tous les cas, ce que j'en connais en tant qu'ingénieur, c'est une certitude que, on utilise une énergie fossile pour faire pousser des légumes, quoi, au lieu de se contenter du soleil.
Oui, tout à fait. Oui, parce que pour revenir, et ça va être la conclusion de ce podcast, c'est que pour revenir à ce que tu disais dans un autre podcast, Génération Do It Yourself, où tu disais tout est énergie, en fait, la première énergie, c'est le soleil qui permet de faire pousser nos légumes aussi.
C'est 99% de l'énergie qu'on utilise sur Terre vient du soleil. Ce qu'on mange vient du soleil à travers la photosynthèse, si on mange des plantes, à travers l'animal qui a mangé la plante, si on mange du lapin, l'énergie du lapin, elle vient du trèfle qu'il a mangé et qui est devenu comme ça grâce à la photosynthèse. Tu prends l'hydraulique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le cycle de l'eau, l'eau est évaporée. Le vent, c'est pareil, c'est le soleil qui va faire des différences de température. Et finalement, même le fossile, historiquement, ça vient du soleil parce que ce sont des dinosaures et des arbres qui ont poussé et grandi il y a quelques millions d'années et qui ont magasiné de l'énergie et qui se sont retrouvés ensuite bloqués dans des poches et cette énergie est devenue hyper concentrée sous du fossile. Donc même le fossile, historiquement, vient du solaire. Par contre, c'est pas renouvelable. Il y a quelques énergies qui viennent pas du solaire. Il y a le nucléaire, puisque là, c'est l'uranium qui est présent sur la Terre. Il y a l'énergie la plus romantique, marée motrice, parce que là, c'est la Lune qui fait faire les marées. Ouais. Et donc là, tu as une belle énergie lunaire. Et tu as la géothermie. Et où là, je vais chercher l'énergie qui est encore au centre de la Terre parce que le centre de la Terre est encore chaud.
C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on fait par... je ne sais plus comment on appelle ça.
Géothermie.
Mais...
OK. On appelle ça, ouais. Tu mets un tuyau qui descend dans la Terre, qui va se chauffer parce qu'il fait chaud en bas.
Okay.
Et qui va remonter et ça va faire de la vapeur. Et tu fais tourner une machine à vapeur, ça fait de l'électricité.
OK. Et ça fonctionne aujourd'hui.
Ça fonctionne aujourd'hui. Par contre, il faut un endroit où il fait chaud en bas, quoi. Donc des volcans. Donc en général, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains à côté des grandes chaînes de volcans.
OK. Donc...
Mais il y en a par exemple en Guadeloupe.
OK. OK, intéressant. Bah écoute, merci beaucoup, Julien.
Je t'en prie. Merci.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants Écotables. À bientôt sur notre grille.